A ver, igual. Bonjour, bienvenue. En tout cas, nous voulons bénir le Seigneur pour ce premier temps de culte, tous ces chants qui aident notre cœur et notre vie à s'approcher de Dieu, à laisser notre existence être transformée à l'image de Jésus-Christ. Je vous l'avais dit dimanche dernier, lors de ce culte spécial, lui tenait avec ce témoignage, qui est plus un témoignage exhortation. Et cela tombait bien, puisque la série que j'avais aussi commencée avec vous sur le prophète Malachi, où je vous avais invité à actualiser ce prophète en méditant les épîtres de Pierre. Ce matin, j'aimerais, à ce dernier dimanche de 2021, vous inviter à cette méditation. J'aime les symboles, et là, nous en avons un de fort. Nous sommes au dernier dimanche de l'année. Ça fait quand même réfléchir. Dieu nous a donné tout ce temps vivant. C'est une grâce de Dieu. Dans une période aussi difficile, sanitaire, nous avons perdu des gens, nous avons perdu des proches. Notre église n'a pas été épargnée, nous avons perdu des proches. Et nous sommes là bien vivants. C'est une grâce, bien aimé, c'est une grâce. Une grâce que nous devons de reconnaissance à Dieu. Autant de reconnaissance à Dieu. Certes, il reste encore quelques jours, mais le chemin parcouru n'est pas mal. Par la grâce de Dieu. J'aimerais donc nous inviter à réfléchir une fois de plus au plus profond de nous-mêmes, à un thème qui est le corollaire de cette invitation. Le prophète Malachi a invité les prêtres de son époque, les serviteurs de Dieu de son époque, mais bien plus le peuple entier, à revenir au Seigneur, à s'attacher à Dieu, à vivre conformément à la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à vivre dans l'attachement au Seigneur. N'ayez pas à la nature divine. Tu peux projeter ce titre. Voilà. Vive dans l'attachement au Seigneur. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 10. N'ayez pas à la nature divine. C'est une invitation du Seigneur à avoir pas cette nature. Lisons le texte. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils le doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et que vous ayez part à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force morale. À la force morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, la persévérance. À l'endurance, l'attachement à Dieu, la piété. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Pierre qui écrit cette épître, poussé, investi, inspiré par Dieu, cette deuxième est comme un testament. Cet apôtre avait eu cette révélation que ses jours sur terre étaient en train de finir, que Dieu allait le rappeler à lui dans son paradis. Et il laisse ses paroles, cette deuxième épître, comme une parole testamentaire, pour réveiller les croyants. Pour leur dire, restez vigilants, restez éveillés, ne vous relâchez pas. Ne relâchez pas votre foi et votre zèle qui se manifeste dans une transformation complète de votre cœur. Parce que les influences de faux enseignements, les influences des moqueurs, les influences, malheureusement, d'un monde qui de moins en moins croit en Dieu, se feront de plus en plus fortes. On était déjà au premier siècle quand l'apôtre Pierre disait cela. Nous voilà au 21e siècle. Après, entre-temps, le siècle des Lumières est passé par là. Et on nous a appris que Dieu n'existe pas. Et on nous a dit que Dieu est mort. Et on nous a dit que l'affaire de Dieu, c'est une affaire privée. Et on nous a dit que c'est une option. Tu peux comme tu ne peux pas. Et on nous a dit que nous sommes des beaux rêveurs. Parce que Dieu, c'est une belle idée. Mais où est-il? Et donc, l'apôtre Pierre dit, attention, les temps vont devenir mauvais. Plus loin dans cette épître, il dit, certains disent, ah, vous avez dit depuis le temps que Jésus revient. Et voilà que les temps ont passé, et donc Jésus n'est toujours pas de retour. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance. Et l'apôtre Pierre laisse ce témoignage. Le message chrétien n'est pas fondé sur un mythe. C'est pas une légende. C'est une parole digne de confiance. Il dit, nous, il dit, moi, l'apôtre Pierre, j'ai marché avec le Christ. Je l'ai vu transfiguré sur cette montagne. Dieu a parlé du haut du ciel. Il a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. J'ai été un témoin oculaire. Je vous l'ai dit, mes frères, avec tremblement. Croyez les paroles que nous vous laissons. Nous vous racontons pas une fable. L'apôtre Pierre est ce dont on appelle les témoins oculaires, les premiers témoins de la vie de Jésus. Sa parole a encore plus de poids pour l'apôtre. Lui, que Jésus n'a pas ménagé dans sa formation, vous savez, c'est celui qui a régné le Christ la veille de la mort du Christ, lorsque le Christ a été arrêté. Injustement, bien sûr, mais il a été arrêté. Lorsque le Christ a été condamné et qu'il était là devant le Sanhédrin, il était accusé de tous les torts qu'il n'avait pas fait et que la sentence était déjà plutôt arrêtée, l'apôtre Pierre a eu peur pour sa vie. Il a révélé le Seigneur Jésus à toi, le Christ. Jésus l'avait averti et lui avait dit, écoute, Pierre, tu es bien gentil, mais fais attention à toi. Les temps qui viennent vont être des temps difficiles. Ta foi va être mise à rude épreuve. Et Pierre a eu cette force de dire, non, moi, je t'abandonne déjà là. Jésus dit, Pierre, calme-toi. Ça va arriver de toutes les nations. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. De sorte que, même quand le milieu est là, tu tiens la bonne. Mais sache que tu vas me réveiller trois fois. Et le signe que tu nous sauras, c'est qu'un coq chantera la troisième fois où tu me réveilleras. Et exactement les choses se sont passées comme ça. À trois reprises, l'apôtre Pierre a dit, moi je ne le connais pas, de quoi parler, je ne le connais pas ce monsieur. Et quand ce coq a chanté, Pierre s'est souvenu. Et la Bible dit que le tableau, c'est que Pierre était dans un endroit où on pouvait voir de là où il était, le Christ, Jésus, assis, en tout cas, au Sanhédrin. Et c'est comme si leurs regards se sont fixés et Pierre a compris. Et Pierre a compris que dit une parole en disant que je n'abandonnerai pas, qui est dans le feu de l'action, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est ce Pierre qui nous dit, qui dit aux chrétiens, restez vigilants. Restez vigilants. Restez vigilants. Vive dans l'attachement à Dieu. Que vous n'ayez pas à la nature divine. Que vous n'ayez pas à la nature divine. Que vous n'ayez pas à la nature divine. Vivre dans l'attachement à Dieu. Le verset 3 dit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. La vie pieuse désigne la vie que Dieu approuve, la vie authentique, qui est vécue dans ce monde, bien sûr. Vivre dans l'attachement à Dieu. La piété, c'est la foi. C'est cette attitude religieuse, respectueuse, d'obéissance, qui se manifeste dans un comportement qui est à l'image de la parole de Dieu, dans les valeurs que Dieu a forgées dans sa parole qu'il nous a données. Et il dit que rien ne manque pour la foi. Si nous voulons vivre une vie de foi, rien ne manque, en fait. C'est une parole tellement forte. Dieu a tout rendu possible pour que celui qui veut vivre dans cet attachement à Dieu, bah, qu'il puisse le vivre. De sorte que même quand nous vivons comme si nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc la nature de Dieu est en nous. Que vous ayez part à la nature divine. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu veut que nous soyons à son image, la nature de Dieu? Dans l'un des versets que je lirai bien plus tard, mais que Whitney aussi l'a partagé, l'amour, la nature de Dieu. Dieu est amour, c'est sa nature. Dieu est amour, c'est sa nature. Comment pourraient être les enfants de Dieu, sinon d'être de cette nature divine? Non. Merci. Cette nature divine, c'est être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Entrer en communion avec lui, c'est connaître Jésus. Et cela implique une relation personnelle avec le divin, avec Dieu. Nous ne parlons pas de mysticisme. Nous parlons de vie ordinaire d'un chrétien qui a cette relation avec Dieu et qui laisse Dieu s'inviter chez lui, dans son cœur, et qui laisse Dieu faire chemin avec lui. Cette nature divine, c'est le caractère de Dieu. Ce sont ses perfections, celles qu'il transmet à ses enfants qui sont les chrétiens. C'est des perfections morales, des valeurs. Et nous pouvons, et nous avons ce privilège d'y participer. Quelqu'un a dit, et peut-être c'est vrai, que Dieu a investi 100% de nous, mais peut-être que nous, nous activons que 1% de ce que Dieu a investi en nous. Que 1%. Alors que nous pouvons faire partie de la jauge bien plus haut. Parce que le texte dit, car il a disposé tout ce qui nous est utile pour que nous vivions comme des enfants de Dieu. Et il précise, justement, que la corruption, la pourriture, c'est la pourriture, quelque chose de corrompu, c'est quelque chose de pourri, hein, quelque chose qui est dégradé, qui sent mal. Il dit, nous avons été sortis de cette corruption du péché. Il faut savoir que le péché, c'est la pourriture. Quand on parle du péché, parfois, on fixe nos regards sur ce qui est massif, écrit. Mais le péché, c'est tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu te fait du mal à toi-même, te fait du mal à ton prochain. Si je pense mal de quelqu'un, ça me fait du mal. Parce que penser mal de quelqu'un, c'est quelque chose que je ne veux pas. Mais si j'arrive à penser mal de cette personne, c'est parce que je suis blessé, donc j'ai mal déjà, donc ça me fait du mal. Et en plus, je fais du mal à l'autre parce que je pense mal de lui. Donc, ne serait-ce que dans nos pensées déjà. Ne serait-ce que dans nos pensées. J'aimerais que nous gardions à l'idée que le péché, c'est la pourriture. C'est quelque chose de. C'est quelque chose de désagréable. Une odeur qu'on ne peut pas supporter. C'est pour ça que souvent, on prend l'image de cette bonne odeur qui monte vers Dieu. De nos bonnes œuvres. Il dit que nous avons été tirés de là. Et donc, si nous sommes dans ce cheminement avec le Seigneur Jésus, nos comportements dans notre existence terrestre doivent être aussi modulés, transformés, porter l'empreinte de Dieu, témoigner de sa nature. Cela demande aussi une rupture. Cette rupture, elle est progressive. Plus nous avons cette relation avec Dieu, plus Dieu nous aide à nous séparer de ce qui ne fait pas sa volonté. Parfois, le mot volonté de Dieu peut être un mot tellement théologique qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Ben, les frères et les sœurs, La volonté de Dieu, c'est tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce que Dieu nous dit, attention, faites pas, vivez pas, parce que ça vous fait du mal à vous, ça fait du mal aussi. C'est pas juste un terme théologique, un terme biblique, c'est un terme pratique. Le croyant est invité à revêtir cette nature même de Dieu. Pour ceux qui ont, c'est une grâce d'avoir des enfants. C'est une grâce. C'est pas un mérite parce que, vous savez, dans vous, il y a tellement de femmes donc, qui ont désiré avoir ton pas. Quand on en a, vous dites, Seigneur, merci pour cette grâce. Après, c'est une grande responsabilité d'avoir des enfants. C'est une très grande responsabilité aussi. Et quand nous avons des enfants, en général, quand ils commencent, même quand ils sont tout petits, déjà, on dit, ah, il ressemble à sa mère. Ah, il ressemble à son père. Et puis quand ils grandissent avec leur comportement et leurs actions, on dit, ah, bah, bien sûr, de qui l'a-t-il pris? Ça se voit bien d'où il a pris ça. Parce que nous donnons un héritage à nos enfants. Un héritage qu'on appelle un héritage génétique qui fait que, manifestement, dans leur développement, ils vont développer des choses qui sont les nôtres. Plus tard, à partir de l'adolescence, ont 12 ans, et la jeune adulte, ils vont forger leur propre caractère et comportement. Mais à la base, nous sommes pleinement investis. Et c'est ce que ce verset dit. Le croyant révèle la nature même de Dieu. Nous sommes une nouvelle création. Quand Dieu est nos enfants, à la fois, il fait une nouvelle création. Il nous donne une nouvelle façon de voir les choses. Il nous oriente à nouveau dans les valeurs que lui, il avait enfui en nous, dont nous ne nous doutions pas. Mais lorsque nous l'avons rencontré, ces valeurs ont pris du sens. Elles ont surgi. Elles commencent à nous guider. Et nous voyons mieux vers où nous allons. N'est-ce pas? Parce que nous sommes participants de cette nature. Et nous avons part aux victoires de Jésus. La victoire la plus massive, c'est celle que nous avons sur le mal. Tous les croyants savent bien que, heureusement, que quand Christ est rentré dans notre vie, ce qui nous dégoûte le plus, c'est le mal. Il nous arrive, malheureusement, de tomber encore dans ces choses. Mais nous n'avons plus le même sentiment. Nous ne sommes plus indifférents. Nous ne disons plus, oh, ça fait bien. Non, nous sommes pas bien. Parce que notre nature est finalement en train d'être transformé en Dieu, qui aime le bien sur Dieu, qui aime le bien sur Dieu. De sorte que quand nous vivons le mal, nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas bien. Cette promesse de la nouvelle naissance, cette puissance protectrice de Dieu, cette puissance qui permet de vivre pieusement, fait de nous les participants de la nature divine. L'amour, les valeurs, les comportements, les attitudes que nous forgeons au cours de notre vie chrétienne, nous asseyons, nous réalisons nous-mêmes, ah, ça ne vient pas de moi ça, mais je suis content de vivre ça. Parce que finalement, Dieu a aiguillonné quelque chose, Dieu a activé quelque chose en moi qui me pousse tellement vers lui. Gloire à Dieu. C'est une plénitude que le chrétien doit chercher. Cette plénitude de vivre ses valeurs. Merci. Ce qui fait le prix infini de la foi, c'est qu'elle nous met en possession des trésors divins. La même parole va dire dans l'Épître aux Hébreux, c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues, mais que Dieu a promis et qui vont se manifester. Les promesses précieuses et grandes de Dieu sont à nos portées. Dieu nous les a données. Il faut continuer à nous les emparer. J'aime cette illustration de ce missionnaire qui dit quelqu'un qui voyageait en bateau a acheté son ticket, donc son billet de voyage. Pendant toute la traversée, il n'allait pas au restaurant, parce que dans sa compréhension à lui, il devait aussi acheter les tickets du restaurant sur le bateau. À un jour de l'arrivée, un ami à lui qui avait constaté que pendant toute la traversée, il n'était jamais allé au restaurant, lui a dit, mais j'ai pas compris. Je t'ai jamais vu au restaurant. Il dit, oui, mais j'avais pas les sous pour ça parce que j'ai pas l'argent pour acheter les tickets. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ton billet était le ticket du restaurant. Tout ce temps, il n'est pas allé au restaurant alors qu'il avait le droit parce que son billet de voyage était aussi son ticket de restaurant. Et nous sommes un peu comme ça, nous les croyants. Nous avons tous ces promesses de Dieu. Mais nous ne les activons pas. Et nous ne les activons pas. Et nous ne les activons pas. Et nous ne les activons pas. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et que vous ayez part à la nature divine. C'est là que Dieu nous a donné. Tout ce qui contribue à la vie de piété, à la vie vraie, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. Or, nous avons, pour ceux qui ont fait ce pas, c'était Jésus dans nos cœurs. Il nous a rempli de ses promesses. Ces promesses sont là. Elles n'attendent qu'à être manifestées. En nous participant de cette nature divine, il nous communique sa sainteté. Il nous communique son caractère. Il nous communique son cœur. Tu peux prier en disant, Seigneur, donne-moi ton cœur, mais tu l'as déjà donné son cœur. Demande-lui juste, donne-moi de le vivre. Et le vivre, bah, c'est dans les contextes du quotidien. Comment peux-tu pardonner si tu n'as jamais affronté l'offense? Dieu nous laisse des êtres relationnels pour que nous puissions vivre toutes ces promesses qu'il nous a données. Lorsqu'il était en croix, agonisant, souffrant, Jésus a cette parole forte. Pardonne le Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent bien ce qu'ils font, ces hommes-là. Ce n'est pas ce que Jésus disait. Je disais juste que l'amour que j'ai pour eux me donne la force de dire ils ont été aveuglés sur le monde, ils ont été aveuglés par l'orgueil, ils ont été aveuglés par la jalousie, ils ont été aveuglés parce qu'ils perdaient pied, ces chefs religieux de l'époque. Je dis pardonne-leur, donne-leur une seconde chance pour qu'ils se ressaisissent. Nous n'avons pas le droit de rester dans le monde du dénuement spirituel. Nous n'avons pas le droit de rester oisif, de rester stérile, parce que Dieu nous a rendus féconds depuis le jour où il a toqué à la porte de notre cœur, depuis le jour où nous avons ouvert la porte de notre cœur, Dieu nous a rendus féconds. Chacun, bien sûr, selon son progrès personnel, mais Dieu te connaît. Il t'a rendu fécond selon ton projet de vie. Et c'est lui qui sait comment il va l'activer et comment il active déjà en toi. Toi, permets-lui de le faire. Et comment tu peux permettre cela? C'est justement pour ne pas reculer, il faut avancer. Pour ne pas reculer, il faut avancer. Si tu stagnes, si tu restes sur place, le danger, c'est que tu ne progresses plus. C'est que tu t'appuies sur tes lauriers. Tu es un peu comme les anciens combattants qui racontent avec, bien sûr, beaucoup de reconnaissance, les faits passés. C'est vrai qu'il y a cette gloire passée. Mais à quoi sert-elle cette gloire passée si elle ne t'encourage pas à avancer? Avance. Avance. Pour avancer, donc, l'apôtre Pierre va nous donner comme une chorégraphie. La foi en Jésus-Christ est ce qui distingue le chrétien des autres. Le mot pistis qui veut dire confiance en Dieu, confiance dans le Sauveur, C'est lui qui nous a fait rentrer dans sa famille, la famille de Dieu. C'est lui qui nous a fondés. C'est lui qui a mis en nous ses valeurs, ses qualités. Mais cela appelle à chacun de nous un appel à retentir. C'est un appel d'avoir cette résolution de progresser, d'avancer dans cet amour que Dieu a déjà investi en nous. Toutes les ressources humaines sont sollicitées en vue du développement d'une foi riche, d'une foi féconde. Mais cet aspect demande pour chacun de nous un engagement, une résolution. De Pierre, dont je parlais tout à l'heure, Jésus lui a dit, Pierre, quand tu seras affermi, affermis-toi. On a cet épisode difficile dans la fin de l'évangile de Jean, où Jésus restaure ce qu'on appelle la restauration de Pierre, parce que Pierre a été marqué par cet âge, il a été marqué. Quand on lit l'évangile, on sent que ça l'a blessé, parce qu'il s'est croyé tellement fort. Et il est tombé plus bas que terre. Et Jésus le restaure. Et on a cette finale de Jean 21 où il dit, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Et Pierre dit, mais Seigneur, tu sais, je t'aime. Et Jésus répond, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Alors Pierre dit, ok, là j'ai compris la leçon. La première fois, j'ai dit avec assurance que je n'allais pas laisser, j'allais fuir. Je me suis appuyé sur mes propres forces. Là, je comprends que le Seigneur n'est pas une pierre. J'ai dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et il reprend, Pierre, aime-tu vraiment? Et Pierre dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Je m'abandonne à toi. Conduis-moi. Et c'est ce Pierre qui était incroyablement zélé pour le Seigneur. Les Sanhédrins, les chefs religieux de son époque ont dit, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce monsieur, son métier dans la vie, c'est pêcheur de poissons. Comment est-il devenu quelqu'un aussi avec un caractère, un comportement, des valeurs incroyables, mais qui en plus est pétri de la parole de Dieu? Il guérit cet handicapé, et on lui en veut, parce qu'il a gagné un handicapé, et dit, je ne sais pas ce que vous voulez, mais nous, ce qu'on avait, c'est ce qu'on a donné. On avait Jésus pleinement en nous, on a dit simplement, au nom de Jésus qu'on a en nous, lève-toi et marche. Qu'est-ce que vous voulez nous reprocher? Et en tout cas, jugez en vous-même s'il est bon de dire aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est ce prière-là qui dit ça. Donc c'est une chorégraphie, c'est un enchevêtrement de choses que Pierre va dire maintenant pour aider le chrétien à progresser, Ils vont en citer 7. 7, c'est un chiffre qui n'est pas exhaustif, mais c'est le chiffre qu'on appelle le chiffre de Dieu. Hein. C'est le chiffre de la perfection. Et on se doute que Pierre n'a pas choisi ce chiffre 7 par hasard. Comme pour dire, il va dire plus tard, d'ici ces choses-là se manifestent en vous, qu'elles se manifestent en abondance, vous êtes une prochaine. Mais si elles manquent en vous, au verset 30, si ces choses manquent en vous, asseyez-vous et dites-vous que vous êtes quand même un peu en train de dévier. Il dit, vous êtes aveugle. Quelles sont ces 7 choses? Les 5 premières, c'est les vertus. Les vertus, c'est un... c'est un ensemble de valeurs. Ce qu'on appelle l'excellence morale. Ce qu'on appelle la bonté. Le courage, l'excellence. Ce qui fait de quelqu'un une personne de bien. Habile dans l'art du bien vivre. Amical et courageux. Les Grecs de l'époque de la paix aimaient ce mot vertu. C'était un mot qui disait que c'était une belle personne, cette personne-là. Et nous voulons être des belles personnes selon Dieu. Il dit, à votre foi, à la confiance que vous avez en Dieu, faites tous vos efforts pour pratiquer ces bonnes vertus. Faites tous vos efforts. une réputation après des efforts. Il y a ces vertus excellentes. Faites encore vos efforts pour y ajouter la connaissance. N'oubliez pas cette connaissance qui entre, même si elle est utile, mais cette connaissance qui est le fondement de la relation avec Dieu, qui procure sagesse et discernement. Cette connaissance spirituelle qui vient par Dieu, qui est centrée sur les valeurs que Dieu nous donne. Il y a un adage qui dit « science sans conscience n'est que rhume de l'âme ». Donc, même la science a besoin d'une vertu. Or, la Bible dit que la science, la plus excellente, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la science, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Donc, connaître Dieu, c'est important. Ensuite, il fait tous les efforts pour ajouter à cette connaissance la maîtrise de soi. Cette maîtrise, c'est de résister à toute forme de convoitise. Nous sommes invités par le monde à tellement de pulsions. Il dit, le chrétien, désormais, avec la force de Dieu, peut maîtriser ses pulsions, maîtriser ses convoitises. Il ne doit pas se lâcher à tout va. Il y a ce thème qu'on appelle la licence. La licence, c'est de dire, oh, je suis un adulte, je fais ce que je veux. Il dit, d'accord, tu peux faire ce que tu veux, mais ce que tu veux ne fait pas toujours la volonté de Dieu, et du coup, ce que tu veux ne te fait pas toujours du bien. Même si, sur le moment, tu crois que ça te fait du bien, mais un peu plus tard, tu ne reconnais pas que, oulala, je me suis bien trompé. Il y a cette maîtrise de soi, maîtriser les libertés que nous avons, soumettre notre liberté à Dieu, dominer nos passions, maîtriser notre corps, discipliner. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel, afin que vous puissiez toujours gagner ceux à qui vous vous adressez. C'est important, cette maîtrise-là. L'Épître aux Hébreux a dit, il y a quelque chose de terrifiant, qui est comme un petit feu qu'on met dans une forêt et qui peut embraser toute une forêt. Il dit, c'est la langue. Il dit, car cette langue, certaines prennent pour maudire et certaines prennent pour bénir. Il dit, peut-il sortir d'une même source une eau empoisonnée, une eau pure? Il dit, non. Une source pure va faire sortir une eau pure. Une source empoisonnée sortez la joie empoisonnée. Dit chrétien, faites attention, car vous êtes des sources pures. Et l'adage populaire va dire, tourne sept fois ta langue avant de parler. Et la Bible dit que la langue maîtrise le soin. Tu vas parler de la patience. Cette fidélité, cette fermeté, cette ténacité, même dans les circonstances difficiles, nous restons attachés à Dieu. Nous sommes patients. Dans l'épreuve, nous endurons, nous supportons. Pas que nous sommes des masochistes, non. Pas que nous aimons le mal, non. Mais que nous avons conscience que tout ne se règle pas parfois du jour au lendemain. Que parfois ça prend plus de temps que nous l'avons pensé. Mais que Dieu nous donne la force d'endurer, d'être patient. Et que parfois dans les relations humaines, tout n'est pas simple. Et donc la patience, c'est se supporter les uns les autres. Mais se supporter, c'est aussi arriver à se parler. Et j'en reviendrai tout à l'heure lorsqu'il parlera de l'amour fraternel. Et enfin, il y a ajouté, cinquième à la patience, la piété, c'est-à-dire l'accomplissement de nos devoirs religieux, mais aussi une conduite appropriée à la parole de Dieu, n'est-ce pas? La piété, ça se passe par la méditation, la lecture, l'apprentissage de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la prière, le service ensemble dans l'église, et même à l'extérieur, et cela se manifeste dans nos habitudes, dans nos attitudes. Merci. Et les deux dernières, l'amitié fraternelle. Il fait tous nos efforts pour vivre comme des amis, mais des amis qui sont de la même famille. L'amitié fraternelle. Nous sommes des cultures blessées, nous sommes des familles blessées, et du coup, notre modèle n'est plus le bon. Sinon, en principe, si deux frères ne sont pas en harmonie, une famille n'est pas bien. Une famille n'est pas bien. On ne peut pas continuer d'être bien dans notre propre famille. Si je ne m'entends pas avec mon frère, je ne suis pas bien. Je ne peux pas. Ça, c'est la normalité. La normalité voudrait que si, dans ma propre famille, mon frère qui s'appelle Jean-Claude, si lui et moi, on ne s'entend pas, à un moment donné, on est des adultes, avec la force de Dieu. L'amour, ce n'est pas la guerre. L'amour, ce n'est pas l'éternel conflit. L'amour, c'est pas j'ai raison, tu as tort. L'amour, c'est un moment donné qu'on s'assoit. Dis, écoute, la vie est encore devant moi, on a un chemin à faire. On est des frères. Faisons la paix. L'amour dit, si tu viens dans le temps de Dieu, et que tu as une offrande à faire, l'offrande ici, c'est venir offrir son culte à Dieu. Et que tu te souviennes, deux cas de figure, que tu as fait quelque chose à quelqu'un, il dit c'est bien quand même que tu arrêtes, que tu règles ça. Deuxième cas de figure, il dit si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est bien que tu règles cela. Parce que tout ça fait partie de quoi? De la multiple fraternelle. Il dit fais tous vos efforts pour vivre comme des frères l'affection familiale. Il procure naturellement les soins, le réconfort et la présence. La communauté chrétienne ne peut se caractériser par une telle bonté. Enfin, l'amour, c'est la nature même de Dieu. Que nous évitons de lui lorsque nous ouvrons à Dieu. Cet amour souhaite, l'amour agapé, souhaite le bien suprême pour le bien-aimé. Il inspire des actions qui nous, parfois, nous envoient à faire des sacrifices parce que nous voulons que l'autre soit tellement bien. Cet amour est un amour qui fait allusion au désir le plus grand du bien pour l'autre. C'est ça que Jésus a fait. David dit qu'il n'a pas regardé à son propre intérêt, mais par intérêt, par amour pour vous, il s'est tourné à la croix. Honnêtement, Dieu, il est Dieu, hein? Il est tranquille au ciel. Qu'est-ce qu'il a à venir encore s'embêter avec lui? Mais parce qu'il en sait. Parce qu'il en sait. Il est venu se prendre les railleries, les moqueries. Il est venu se prendre les crachats sur le visage. Du fait, c'est envie. Mais c'est même pas un Dieu ici, on lui crache dessus. Il a dit cette parole, dit comme un agneau qu'on met dans l'abattoir, il n'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'il voulait payer le prix de notre salut. C'est de cet amour que le chrétien, la chrétienne doit être pétri. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous invite à la prière. Merci pour ta grâce. Nous levons et nous avons le soutenu. Et en plus, tu nous as fait participants de ta nature, la nature divine. Tu nous as fait participants de la nature d'amour que tu es. Aide-moi, aide ton Église à progresser. Que nous puissions ne pas baisser les bras, mais que nous puissions dans ta grâce. Et par ton Saint-Esprit, nous battre dans le bon sens du terme pour vivre l'amour selon Dieu. Que nos cœurs te bénissent. Tu nous connais. Merci parce que toi, ton projet est un projet d'amour pour nous. J'ai pas de monde dans ma prière, Seigneur. Je veux juste que tu m'aides et que tu aides mes frères et sœurs. Je voudrais tellement que ton Saint-Esprit se manifeste dans mon cœur, de façon pleine, de façon authentique, de façon sincère. Par tes enfants, tu es Dieu puissant, t'as pas besoin de nous. À
agir dans nos vies. Plons cette lumière. Nous puissions être des gens, des hommes et des femmes, qui vivent l'attachement à Dieu. Ayant en nous la nature de Dieu. Refusant de reculer, mais résolument d'avancer. Au nom de Jésus.